Québec se lève.
La chronique historique de François Terrien. Voici le studieux Sieur de Terrien.
OK, oui, le Sieur.
Je suis le studieux.
Moi, ce que j'aime, c'est que normalement, on parle de l'histoire, on parle de choses passées, mais on fait rien comme du monde. On parle du futur aujourd'hui.
Ouais, en fait, à la place de faire une revue de l'année, j'ai décidé de faire de nous transposer en 2021.
Nostraterrien, mesdames et messieurs.
Eh oui, c'est moi. En fait, c'est les phénomènes astronomiques qu'on va pouvoir observer en 2021, parce que 2020 s'est terminé par un phénomène astronomique très rare, la conjonction des deux plus grandes planètes de notre système solaire, Jupiter et Saturne. Ce qui est plate, c'est qu'on n'a pratiquement rien vu parce que ça fait une semaine que c'est nuageux.
Ouais.
Parce que la date, c'était le 20 ou le 21 décembre.
Ben, le 20, je crois.
Puis ces deux planètes-là, là, pendant tout l'été, on les a vues proches l'une de l'autre. Puis tranquillement, ils se sont rapprochés. Et le 20, là, il était pratiquement collé une sur l'autre.
C'était, écoute, pour les gens qui sont plus mathématiciens que nous, là, c'était 0.4 degrés de différence entre les deux planètes, ce qui donnait l'impression que c'était une grosse étoile super brillante.
Exact. Alors, mais malheureusement, la météo a fait qu'on n'a pratiquement rien vu. Dans le cas de Saturne et Jupiter, c'était la première fois que la conjonction de ces deux planètes-là se produisait depuis l'an 1226. Ça faisait presque 800 ans que c'était pas arrivé, alors c'est un phénomène qui est quand même rare. Puis d'ailleurs, en parlant de conjonction, les astronomes croient que la fameuse étoile qui aurait guidé les rois mages lors de la naissance de Jésus, c'était la conjonction de Jupiter, Saturne et Mars.
Exactement.
Alors, ça, c'est hyper, hyper rare. Ça arrive pratiquement jamais.
On dit une fois par 2000 ans.
À peu près. Et même davantage. Alors, imaginez-vous, là, ces trois planètes-là dans un pain de sucre, ça fait comme une très, très grosse étoile. On n'est pas sûr de ça, mais fort probablement que c'est ce qui est arrivé. Là. Les rois mages ont été guidés par la conjonction de Jupiter, Saturne et Mars. Un autre phénomène rare qui s'est produit en 2020, le passage de la comète Neowise, qui pendant une bonne partie du mois de juillet était observable à l'œil nu.
Oui.
On la voyait au coucher du soleil.
J'ai essayé autant comme autant de la voir, j'ai jamais été capable.
En ville, on la voyait bien. Mais en campagne, encore mieux, là. Mais c'était la première fois qu'on voyait dans l'hémisphère nord une comète observable à ce point-là, à l'œil nu, depuis 1997. À cette époque-là, c'était la comète Hale-Bopp.
Oui.
Puis
oui.
Elle était visible, solide. Là. C'est une des plus belles observations de comètes des dernières décennies. Là, on la voyait super bien. Là. C'était l'objet qui brillait le plus dans le ciel la nuit, à part la Lune.
Moi, je me rappelle vaguement de la comète de Halley en 86.
Dans l'hémisphère nord, on la voyait pas beaucoup.
Non.
Elle avait surtout passé dans le sud.
Puis j'étais jeune, j'avais 8 ans. Fait que, tu sais, je me rappelle d'être sorti dehors avec ma mère à regarder le ciel puis essayer de la spotter et d'y avoir posé la question. Toi, l'avais-tu déjà vu? Elle m'a répondu. J'ai pas 86 ans, mon garçon.
C'est ça. Ça passe aux 76 ans, je pense.
76 ans. 86,
c'est
le même.
C'est ça, parce que l'année d'avant, c'était 1910.
Ouais, c'est ça. 76 ans. J'ai confondu avec l'année où ça a passé.
Alors, on la verra pas quand
on va revenir.
Non, on sera pas là.
Moi, peut-être, mais faudrait que je vive jusqu'à 84 ans?
Ah non, mais... 84 ans, t'as des chances. Ouais. Bon, 2021, pour les phénomènes astronomiques, il va y avoir deux éclipses solaires, dont une complète. La première va avoir lieu le 10 juin. Ce sera une éclipse annulaire qu'on appelle, c'est-à-dire que le pourtour du soleil dépasse. La Lune est comme pas assez grosse pour couvrir tout le soleil, là, pour le cacher complètement. C'est au contraire d'une éclipse totale ou partielle, où une partielle, là, dans le fond, t'as comme un croissant de soleil qui dépasse. Cette éclipse sera visible ici, dans l'hémisphère nord, donc à Québec, très tôt le matin. Le soleil sera déjà voilé quand il va se lever le matin du 10 juin. Puis la deuxième, c'est une éclipse totale. C'est le 4 décembre. Mais oubliez ça pour nous autres. Il faudra être en Afrique du Sud, dans l'extrême sud de l'Australie ou en Antarctique pour la voir. Alors, mais celle du 10 juin, on va la voir. C'est au lever du soleil. Déjà, elle est commencée quand le soleil se lève le matin du 10 juin à Québec. Le 10 juin, le soleil se lève de bonne heure.
Parce que tu parles d'éclipse solaire, c'est dans un petit bout, je pense, en 2024 ou en 2025. Il y a une éclipse totale qui passe par Sherbrooke.
Oh
oui, j'ai déjà commencé à planifier mes affaires pour aller faire un tour à Sherbrooke cette journée-là. Ouais, là. Ouais, et ça va être vraiment, ça va tomber la nuit. Là. Ça passe là, je pense, c'est 100 km à gauche et à droite de Sherbrooke. Tu vas avoir une éclipse totale dans ce coin-là.
Direct. Du soleil, pas de la lune.
Une éclipse solaire. Oui, oui.
Solaire.
Oui. Fait qu'on en reparlera dans 4 ans.
Ben effectivement. Alors parlons d'éclipses lunaires parce qu'il va y en avoir deux aussi en 2021. Une complète, l'autre partielle. La première aura lieu le 26 mai, donc c'est 2 semaines avant l'éclipse solaire. Ça va va être une période faste pour les phénomènes astronomiques. Elle sera aussi visible en pleine nuit entre 1h45 et 5h du matin. Il va falloir veiller. L'éclipse sera totale pendant environ 7 minutes entre 3h19 et 3h26. Notez que la Lune se couche avant la fin de l'éclipse. C'est ce qu'on appelle une éclipse pénombrale, car elle se trouve dans la Lune à ce moment-là se trouve dans la pénombre de la Terre. Il va y avoir de la clarté du jour à ce moment-là. C'est un phénomène, dit-on, qui est plutôt rare. L'autre éclipse lunaire aura lieu le 19 novembre. Elle sera partielle, visible aussi au Québec. Elle commence à 1h du matin pour se terminer à 7h. Il va y avoir quelques événements spéciaux. Il y en a deux qui retiendront l'attention. L'arrivée de l'astromobile Persévérance sur Mars le 18 février. Alors, c'est dans pas long, c'est dans même pas deux mois. C'est la première partie d'une série de trois ambitieuses missions pour rapporter sur Terre des échantillons de Mars. On est déjà allé sur Mars, là. Il y a déjà un astromobile qui est là, puis qui prend des photos, puis qui analyse des échantillons. Mais là, on veut en ramener sur la Terre. Mais ça se fait pas en criant ciseaux. Ce projet est dans les cartons de la NASA depuis des années, mais il avait toujours été remis en raison de ses coûts astronomiques.
Un jeu de mots.
Savez-vous comment elle coûte, cette mission-là? Juste là, prendre le Persévérance, il a décollé là, le 30 juillet, puis il va atterrir le 18 février.
Écoute, je vais te dire 2 milliards et demi.
Ben, t'es presque dessus, c'est 2,7 milliards. Hey, 2,7 milliards.
C'est hyper cher, là. Pour les gens qui connaissent pas ça, là, la technologie que ça prend pour envoyer quelque chose dans l'espace, en partant, c'est pas donné. Le gaz, la construction de la fusée, là, ça me surprend pas tant que ça, que ça soit si cher que ça.
Ben, voyez-vous, les deux autres missions, parce que pour faire la mission complète, là, on envoie l'astromobile sur Mars. Là, après, il va collecter des échantillons, qu'il va mettre ça dans un coin. Puis à un moment donné, on va aller les chercher, ces échantillons-là. Ça va se faire en deux missions qui devraient débuter en 2026. Et ça encore, puis se terminer là en 2031. En 2031, les échantillons de Mars devraient être revenus sur Terre. Mais les coûts n'ont pas été chiffrés encore. Mais regardez, là, c'est 2,7 millions juste pour cette mission-là. Ça vous donne une idée. Ces missions sont réalisées conjointement par la NASA et l'Agence spatiale européenne. Comme je vous disais, il y a déjà un astromobile sur Mars, Curiosity, qui est sur la planète rouge depuis 2013. Mais Persévérance est beaucoup plus gros et sophistiqué. Toute la technologie de pointe est présente dans ce véhicule-là, là, vraiment.
Mais y a-tu Bluetooth?
Écoute, on apporte même un mini hélicoptère pour tester les capacités de vol dans l'atmosphère de Mars.
Oui.
Il est tout petit, là, il est hyper léger.
Téléguidé ou?
Ben, sûrement.
Ouais, j'imagine.
Puis on va le faire voler pour voir comment on peut voler dans une atmosphère ténue comme celle de Mars.
C'est ça. Je sais pas si tu sais que tu parles à un astronome amateur. Là.
Moi, non.
Je connais pas mal l'espace. Ça a été une de mes passions quand j'étais jeune. Mais c'est ça. C'est que pour les gens qui ne le savent pas, sur Mars, il y a une atmosphère, oui, mais elle est mince. Là, on parle de l'équivalent de la hauteur où les hélicoptères sont plus capables de monter sur la Terre, ou à peu près. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent faire... S'ils veulent envoyer un drone là, ça va être un tout petit drone avec des hélices qui vont tourner hyper rapidement.
Je pense qu'il est 2 kilogrammes, quelque chose comme ça.
C'est ça.
C'est vraiment tout petit.
Un 4 livres, là. Ouais. Ben, c'est ça, ça te prend une hélice qui est hyper rapide parce que l'air est tellement mince là-bas que faut que tu déplaces énormément d'atmosphère pour être capable de lever une charge minimale.
Mais ça, c'est un test. On veut voir qu'est-ce qu'on est capable de faire voler dans cette atmosphère-là. L'autre phénomène, c'est prévu pour le 31 octobre, le lancement du télescope James Webb. C'est le successeur du télescope Hubble,
okay,
qui est en orbite autour de la Terre depuis 1990. Ce projet est sur la table à dessin depuis une trentaine d'années. En fait, Hubble venait juste d'être lancé, qu'on se mettait déjà à penser
Hubble
à un successeur, exactement. Le James Webb doit être opérationnel pendant une dizaine d'années. Sa mission comprend la recherche de la lumière des premières étoiles et galaxies apparues dans l'univers lors du Big Bang.
Okay.
Ça vous donne une idée, là. L'étude de la galaxie, de son évolution, la compréhension des mécanismes de formation des étoiles, l'étude des systèmes planétaires et de la formation de la vie. Bref, c'est une mission assez élaborée et ambitieuse.
On me dit que lui, il n'est pas Bluetooth, lui, il est 5G.
Probablement. C'est un projet conjoint entre la NASA, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne. Alors, il y a un peu de nous autres là-dedans. Coût du projet, messieurs?
1,7.
Ouais, j'allais dans ce point-là, 1,5.
Vous êtes dans le champ.
Ah ouais.
10 milliards de dollars. Mais ça fait 30 ans qu'on travaille dessus.
C'est ça.
Là. Alors,
puis c'est plus gros aussi qu'un petit rover, juste pour les frais de décollage là. Puis
c'est ça. Puis c'est un télescope là. C'est la fine pointe de la technologie. Puis ça a pris une trentaine d'années à développer. Alors on a mis là-dessus 10 milliards de dollars. Alors le télescope James Webb. Pour ceux qui se posent la question, James Webb, c'est un ancien administrateur de la NASA là, au début de l'agence dans les années 60.
Parfait. Hey, pour vrai, c'était fort intéressant. Puis je j'étais pas au courant qu'il y avait le petit rover qui s'en va sur Mars là, mais
ouais, ben lui il est parti le 30 juillet. On en a parlé quand la fusée qui le portait a décollé là.
Moi, je devais travailler ailleurs dans ce temps-là.
Ouais, là il s'en va tranquillement, puis le 18 février, il se pose sur la planète Mars.
Je vais tellement suivre ça avec beaucoup d'intérêt, puis aucun sarcasme.
Mais c'est toujours le fun ces choses-là, tu apprends plein de choses.
Oui, en espérant que ça fasse pas comme les autres qui se sont écrasés. Ça marche pas.
Vous saviez qu'est-ce qui s'était produit? Parce qu'on en a envoyé un avant Curiosity ou après, je me souviens pas.
Erreur de conversion pied mètre.
Ouais. Ouais, c'est exactement. Ça. Il s'était trompé dans la conversion. Fait que le bolide, là, c'est le cas de le dire, lui, il plongeait vers la planète, puis dans son calcul à lui, l'ordinateur, on n'est pas arrivé, on a le temps encore en.
On atterrit dans 300 mètres. Non, Big, c'est dans 300 pieds.
Bang. Il y a plus une vérification, puis un double check, puis un double check.
Hey, imaginez comment ça a coûté ça.
On me dit que l'équipe canadienne a vu que c'était atterrissage dans 300. Les Américains, ils ont vu atterrissage dans 300, mais ils s'entendaient pas sur le pied puis sur le mètre. C'est juste ça le problème. 8h48, on parle de football de retour.
Que Québec se lève. La chronique historique de François Terrien. Voici le studieux Sieur de Terrien.